en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, l'invité de notre série L'Essentiel est aujourd'hui Alain Besançon, historien, philosophe de l'histoire, romancier. Alain Besançon qui a été élu à l'Académie des sciences morales et politiques le 11 décembre 1996. Alain Besançon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle le principe de notre série L'Essentiel, 7 questions récurrentes posées à tous les invités sur leur itinéraire, leur activité, leur regard sur le monde et notre société, leurs échecs et leurs motivations. Tout de suite, la première question. Dans votre itinéraire professionnel, dans votre carrière, quel a été Alain Besançon jusqu'à présent, à vos yeux, le moment essentiel ?
Écoutez, j'ai eu plusieurs moments essentiels.
Privilégiez, si possible.
Écoutez, je pense que le moment le plus important, c'est le moment où j'ai eu les idées enfin stabilisées. C'est-à-dire le moment où j'ai su ce que je pensais, parce que à partir de 17 ans, quand j'ai quitté ma famille, ou un peu en assez mauvais termes, j'ai fait une succession de zigzags, pas très heureux, quelques-uns heureux quand même, puisque je me suis marié, j'ai commencé à faire des enfants, et j'en ai même fait plusieurs, mais enfin, je ne savais pas encore vraiment ce que je pensais. Alors, bon, jeune, comme beaucoup de ma génération, on a été communistes, et je distingue ceux qui en ont eu le remords, dont je fais partie, et ceux qui ont trouvé ça très bien, et même une étape dans leur vie toujours ascendante.
Mais vous l'avez été assez tard.
Ah, moi non, je l'ai été entre 19 et 22 ans, pratiquement.
Oui, mais je veux dire, c'était en 1951.
Ah, je suis parti, oui, je suis parti en 56, dans le bon train. Enfin, il y a un moment où le train s'arrête, il faut descendre. Si on ne redescend pas à ce moment-là, on risque d'être bloqué, le train reprenant de la vitesse.
Mais rentrer au Parti communiste après la guerre de Corée, c'est quand même un peu...
C'était l'intoxication idéologique qui était extrêmement forte chez les jeunes Français. D'autant plus que personne ne nous disait que c'était idiot et que c'était très mal. À Sciences Po où j'étais, le marxisme était enseigné par un communiste, l'histoire de la Russie par un communiste, la géographie de la Russie par un communiste, et les braves bourgeois, conseillers d'État, etc., extrêmement sages, trouvaient que, après tout, l'URSS, ça marchait, planification, tout ça, enfin, ils étaient très respectueux.
Vous n'aviez pas lu Gide ?
Non, j'avais pas lu Gide. Non, j'avais pas lu Gide. Mais vous savez, quand on est dans ces intoxications-là, on est cloîtré dans un cercle de lecture dont on ne sent pas qui vous occupe. Mais enfin, donc, le train s'étant arrêté en 56, je suis descendu. Et à partir de ce moment, d'ailleurs, mes idées politiques ont été fixes. J'ai tout de suite été libéral, libéral, libéral un petit peu à gauche au début, puis libéral conservateur à partir de 68. Mais enfin, disons, c'est vers 35 ans, je suis un tardif, que j'ai su à peu près ce que je pensais définir.
Et là, vous êtes tombé dans la marmite de l'histoire de la Russie, quoi.
Ben oui, j'ai voulu comprendre ce qui m'était arrivé, comment est-ce qu'on pouvait se faire intoxiquer, comment quels étaient les mécanismes du mensonge dont nous avions été les victimes, mais les victimes consentantes. C'est pour ça que je ne m'exonère pas, quand même, de cette erreur. Qu'on me rappelle toujours, alors que quand même, depuis ce moment-là, j'ai dit la vérité sur ce pays. J'ai marné 25 ou 30 ans à dire la vérité, sans beaucoup de succès, d'ailleurs.
Mais comme une expiation
sauf, ou... Non, simplement non. Pour savoir la vérité. Puis le sujet est quand même métaphysiquement intéressant. Et ce qui m'a permis, d'ailleurs, d'acquérir un bon renom. Pas en France, évidemment, où, au contraire, on est toujours mal vu quand on est anticommuniste, mais, ou anti-soviétique, mais dans des pays comme la Pologne, comme la Roumanie, ou, comme la Russie même, où j'ai été traduit. Hein. Encore récemment, j'ai été en samizdat, c'est la gloire de ma vie. J'ai été un auteur de samizdat très important pour les Polonais dans une époque noire. Moi, je suis très fier de ça, parce que vendre ses livres n'est rien, mais quand des gens... risque des choses, risque des ennuis sérieux pour traduire vos livres et les diffuser en samizdat. Je ne vois pas de gloire supérieure pour un écrivain.
Mais pour comprendre cette situation-là, vous avez dû faire appel à autre chose qu'à l'histoire, je suppose.
Ah ben, j'ai toujours pensé d'ailleurs qu'on ne savait une chose que quand on en savait une autre en même temps. Et il ne faut pas rester enfermé dans son field, parce que le field finit par vous offusquer, par vous enfermer, et on n'en sort plus. Alors... la Russie, bon, c'est assez intéressant, beaucoup moins. Ce n'est pas une très grande culture, contrairement à ce qu'on pense. À côté de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Angleterre, ça ne se compare pas, évidemment. Mais enfin, il y a quand même eu de beaux écrivains. Mais enfin, ça ne suffit pas pour nourrir une vie intellectuelle complète. Il faut savoir autre chose. Mais le communisme pose des questions métaphysiques auxquelles il faut répondre. Et si on n'y répond pas, on ne comprend rien. ceux qui ont bien compris le communisme, en général, ça a été des anciens communistes. Je pense en France à des gens comme Souvarine ou des gauchistes comme Orwell. Mais jamais les gens de droite. Jamais les gens de droite, ils n'ont jamais rien compris.
Ils ne perçoivent pas.
Ramener le communisme à quelque chose de connu, c'est par exemple la Russie éternelle, enfin ce qui est une sottise évidemment, mais bon, ils n'entraient pas dans le vif du sujet.
Alors vous avez...
Il faut être un peu métaphysicien.
Vous avez publié un livre très remarqué sur les origines du soviétisme.
Les origines intellectuelles du léninisme.
Oui, oui. C'est ça, mais en faisant de Lénine, au fond, le père des totalitarismes. Y compris le nazisme, quelque part.
Le nazisme a beaucoup de choses communes avec le léninisme, mais il est, si je puis dire, beaucoup moins solide. D'abord, il se limite au cadre allemand, c'est quand même... Alors, le communisme est universel. Ensuite, le communisme a une allure, le léninisme a une allure de cohérence et disons, se donne une généalogie... qui va loin. Enfin, il se donne cette généalogie, bien sûr, il l'a trahi, mais il se la donne. Alors que le nazisme ne peut pas produire une grande généalogie. Ça,
mais ce qui est curieux dans votre façon de parler
du darwinisme, c'est du darwinisme racial, c'est peu de choses.
Mais quand vous parlez de Lénine, vous associez Lénine à la religion, c'est quand même très très curieux ce que vous dites.
Non, j'ai pas, justement pas...
aspect religieux...
J'avais des discussions avec mon maître vénéré, Raymond Aron, qui avait écrit un livre, l'opium des intellectuels, qui trouvait que le communisme était une religion séculière. Alors, je trouvais qu'il fallait mettre des distinguos, c'est pas une religion, c'est une idéologie. Et ça se rattache davantage au gnosticisme, c'est-à-dire au salut par le savoir, à la différenciation des hommes entre ceux qui savent, les parfaits, les communistes, et ceux qui ne savent pas, alors qu'ils doivent être dirigés et cordaqués. Ça, c'est les origines gnostiques du léninisme. Mais alors, on y rajoute le scientisme du 19e siècle. C'est une gnose qui se prend pour une science. Et le communisme a toujours voulu se prendre pour une science. Même Hitler, d'ailleurs, se rattachait aussi à une science. Mais bon, c'est un darwinisme racial, ça ne tient pas debout. Mais enfin, disons, non plus, ça ne tient pas debout. Mais enfin, ça a une cohérence, si vous voulez. Ça a une cohérence, ça donne le sceau d'une certitude scientifique, puisque quand même, depuis le 17e siècle, les hommes considèrent qu'il n'y a que la science qui donne des certitudes complètes. Donc, on a une fausse science, une fausse religion, un faux gnosticisme qui s'appelle une idéologie. Et c'est ça qui est le ciment de ces régimes-là, jusqu'à ce que ça craque. Solzhenitsyn l'avait bien vu, d'ailleurs, il dit la clé du régime soviétique, c'est cette défroque pleine de sang, mais dont on n'arrive pas à se débarrasser, c'est l'idéologie léniniste. Alors, ils s'en sont débarrassés. Et maintenant, ce qui, en Russie, tient la place que tenait le communisme, eh bien, c'est le nationalisme religieux, le nationalisme orthodoxe. Voilà.
Et que l'on confond avec un sentiment de fierté que vous récusez. Vous ne voyez pas là-dedans de la défense d'une fierté nationale. Pour vous, c'est purement et simplement du nationalisme.
Moi, je ne suis pas du tout un ennemi du peuple russe, mais je vois que ce peuple souffre depuis très longtemps. Il s'en sortait un peu au 19e siècle, puisqu'il a pu produire une culture de type européen. Puis il est retombé dans quelque chose de tout à fait atroce, dont il n'arrive pas à sortir. Parce que comme les 20 dernières années de l'URSS, de la Russie, ne lui ont pas permis de sortir, disons, d'un système mauvais. Comme me disait un ami dissident russe que j'ai rencontré récemment, c'est pas eu un changement de régime, c'est un changement de la garde. Voilà ce qu'il a dit pour la révolution de 1990.
On est dupe d'un langage. Au fond, Medvedev, Poutine, Gorbatchev, Brejnev, tout ça c'est la même chose.
Disons, le coup de Brejnev-Poutine, c'est un peu le coup des faucons et des colombes sur lequel on a fait marcher l'Occident pendant toute la guerre froide. Il y a le bon flic, le mauvais flic,
etc. Et vous pensez que ça reste toujours une logique de guerre froide,
C'est pas une démarche de guerre froide. D'ailleurs, la guerre froide, c'est quand même eux qui nous ont obligés de la faire. Il fallait résister. Si on n'avait pas résisté, il n'y aurait pas eu de guerre froide, évidemment. Celui qui fait la guerre, c'est celui qui résiste, hein, c'est pas celui qui attaque. Si on ne résiste pas, il n'y a pas de guerre. Bon, mais actuellement, il y a toujours une volonté impériale de la Russie qui s'exerce pas dans le cadre universel du léninisme, qui visait vraiment la révolution mondiale, mais ils veulent reconstituer l'URSS. Et c'est une petite satisfaction de gloire qu'on donne au peuple russe, dont il doit se contenter, le pauvre, et des miettes de la rente pétrolière.
« Deuxième question récurrente de notre série L'Essentiel. Qu'est-ce qui vous paraît essentiel à dire, Alain Besançon, sur votre domaine d'activité aujourd'hui, votre travail d'historien?
Oui, alors moi j'ai laissé tomber le champ russe, que j'avais quand même labouré en long en large, puisqu'en 90, ce que je racontais qui n'était pas cru, mais a été considéré comme évident, et que là c'était du travail de journalisme de s'occuper de la Russie contemporaine, de la Russie post-communiste. Alors j'ai laissé tomber, je me suis occupé d'autre chose. Je me suis occupé successivement de la situation des Beaux-Arts, enfin de l'image aujourd'hui, du sort de l'image, et particulièrement de l'image religieuse, de l'Église, de la situation religieuse.
Avec un livre très curieux d'ailleurs sur les trois tentations de l'Église.
C'était... Oui, c'est un livre dont je suis tout à fait content. Celui-là. Je ne suis pas content de tous mes livres, j'en ai fait au moins un mauvais. Mais
Vous pourriez résumer le thème là,
C'est-à-dire
que l'Église est poreuse, au fond, elle est poreuse à son histoire, et elle est poreuse au monde
bien
contemporain.
Bien sûr, il est normal qu'elle soit poreuse.
Oui, mais elle est beaucoup plus, semble-t'il, qu'on ne le pense, l'institution.
C'est-à-dire qu'elle a mal négocié trois défis. Le défi de la société moderne d'après la Révolution française, le défi de la démocratie. Hein. Donc la première tentation a été de résister à la démocratie, ça a été l'antidémocratie, dont elle n'est sortie d'ailleurs tout à fait dans le radio-message de Pie XII en décembre, à Noël 1944. C'est là que Pie XII, la papauté, le Vatican, a pris vraiment fait cause pour la démocratie. La deuxième tentation, c'est de se noyer dans le monde démocratique, parce que le monde démocratique est un monde de relativisme, d'humanitarisme tous azimuts, d'écuménisme sans frontières, etc., dans lequel l'Église peut se noyer. Et Dieu sait qu'après le Concile de Vatican, qui a été au fond contemporain de mai 68, puisque le Concile de Vatican s'est terminé en 65, mais la Révolution... Grande révolution, ce qu'on appelle en France 68, en fait, elle a commencé plutôt aux États-Unis en 1964. J'en étais témoin, j'étais à ce moment-là à Berkeley.
J'ai vu vraiment et pour vous, d'ailleurs, elle est beaucoup plus sérieuse dans son contenu qu'on ne veut bien le dire.
Ah, moi, je crois que c'est un événement tout à fait capital. Je ne parle pas des petits événements parisiens qui sont un peu ridicules, mais je parle du mouvement de fond qui est une extension de l'idée démocratique qui était cantonnée depuis la Révolution française et puis la Révolution américaine. Dans le cadre de la vie politique, dans le cadre de la démocratie politique, elle est sortie de ce cadre, s'est répandue dans toute la société, et elle règle maintenant les rapports entre, entre le médecin et le malade, entre le professeur et l'élève.
L'idée clé, c'est en l'égalitarisme.
Entre le mari et la femme, entre le père et les enfants, etc.
C'est bien ça, l'idée clé, c'est l'égalité.
C'est la fin des hiérarchies, la fin de l'autorité. Enfin,
plus que la révolution de la jouissance, c'est la révolution de l'égalité, 68.
C'est la disparition des cadres hiérarchiques, l'égalité des conditions. Tocqueville l'avait déjà pressenti, Hannah Arendt avait écrit des choses là-dessus, l'avait senti aussi. Puis après, c'est arrivé. C'est arrivé et a commencé en 68 une révolution dont nous ne sommes pas sortis, puis qui continue de développer. Je ne sais pas où elle nous emmène d'ailleurs. Je ne sais pas, je l'observe, je suis ni pour ni contre. C'est des événements trop grands, si vous voulez, pour qu'on s'y repose. Ce serait tout à fait ridicule. Mais on peut essayer de les voir et de les analyser. Mais je crois que c'est effectivement un événement très important.
Il y avait cette première tentation pour l'Église et vous
parliez
des
deux. Et la troisième, c'est la tentation de l'islam. Parce que...
Mais comment alors ?
Écoutez, le problème, c'est que l'islam, il y a très peu de monde dans l'Église qui sache ce que c'est. Et justement, dans ce monde du relativisme, de l'égalité des religions, etc., peu de gens se sont, en particulier dans le clergé catholique, se sont préoccupés de savoir à fond ce qu'était l'islam. Ils sont souvent restés sous la lumière, ou plus exactement l'obscurité, que jetait un homme qui était un homme éminent, qui était Massignon, et qui était une espèce de recomposition de l'islam, qui, à mon avis, est tout à fait étrangère à ce qu'il est. Et le fait est, si vous voulez, que c'est assez triste, mais enfin, l'Église a eu un discours insuffisant sur le nazisme. On le sait bien, on le lui reproche assez, mais enfin, elle a dit des choses quand même. Elle a eu un discours encore plus insuffisant sur le communisme, puisque, disons, de Jean XXIII à Jean-Paul II, elle n'a pratiquement rien dit, et à la grande souffrance de l'Église catholique des pays de l'Est. Et puis, il y a un troisième silence sur lequel l'Église ne trouve rien à dire, c'est le silence sur l'islam.
Alors, apparemment, Benoît XVI veut en sortir, puisqu'il va y avoir un synode en octobre.
Écoutez, on va voir.
Vous avez vu le texte préparatoire pour le synode d'octobre.
Non, je ne l'ai pas vu.
Alors là, il n'y va pas par quatre chemins. Hein.
J'espère bien.
Il demande aux pays d'islam, et en particulier aux responsables d'islam au Moyen-Orient, 1) de distinguer la réalité religieuse de la réalité politique, 2) d'alléger le caractère théocratique des gouvernements, 3, d'accepter un modèle de laïcité positive, 4, de développer en termes législatifs la liberté religieuse et la liberté de conscience.
J'ai le regret de le dire, mais j'ai peur que justement ces revendications témoignent d'une profonde ignorance de ce qu'est l'islam, parce que c'est lui demander de ne plus être lui-même. Ce qu'on peut demander, c'est cet éclaircissement des consciences catholiques sur ce qu'est l'islam. Justement, ce programme est parfaitement utopique. Comment voulez-vous que l'islam accepte cela? C'est complètement contraire à sa nature. Ce n'est pas possible de lui demander ça.
Autrement dit, vous pensez que l'islam n'est pas aujourd'hui dans une situation où on pouvait trouver le catholicisme en France avant la loi de 1905?
Mais justement, c'est ce qu'on essaye de faire et on n'y arrivera pas.
On n'y arrivera pas.
Ben non, parce que le catholicisme en France, on l'a traité au fond dans la suite du gallicanisme français. Disons, quand Philippe le Bel fait l'attentat d'Agnani, dans lequel le pauvre Boniface VIII a dû se coucher et est mort, eh bien, il y a eu une séparation, si vous voulez, de l'État et de l'Église, de fait en France, n'est-ce pas? Donc, qui s'est développée. Louis XIV a été pratiquement en schisme. La constitution civile du clergé est un schisme de l'Église de France. Au XIXe siècle, l'Église était sous le concordat. Bon, la séparation de l'Église et de l'État, si vous voulez, c'est une vieille chose en France. Mais on savait ce que c'était que l'Église et on savait ce que c'était que l'État. Alors qu'on ne sait pas ce que c'est que l'islam.
Qu'est-ce que vous voudriez nous dire d'essentiel sur l'islam? Enfin,
c'est une question de cours. C'est un peu compliqué.
Non, mais c'est histoire pour les nuls, une idée à nous faire assumer, enfin, quelque part.
J'ai eu deux formules. C'est la religion naturelle du Dieu révélé. C'est-à-dire, si vous voulez, ça, la façon païenne d'adorer le Dieu d'Israël. Les chrétiens adorent le Dieu d'Israël, mais ils les adorent selon les voies que le Dieu d'Israël a indiquées lui-même. Les juifs aussi. L'islam transpose son idolâtrie à ce Dieu d'Israël. Et en résulte des tas de conséquences. Voilà.
Vous dites idolâtrie, hein ? J'ai bien entendu.
Oui, c'est une idolâtrie du Dieu d'Israël qui se cache sous un monothéisme extrême, mais on peut avoir une idée idolâtrique de Dieu. Et Hume avait dit d'ailleurs que le monothéisme n'était pas un avantage sur le polythéisme. Hein, on trouvait que les Grecs et les Romains étaient mieux que les musulmans, et même que les chrétiens d'ailleurs, dans son avis.
Derrière l'idée d'un monothéisme vient l'idée d'une forme de totalitarisme ou pas?
Là, c'est encore une mauvaise assimilation. On dit que l'islam est totalitaire. Mais non, le totalitaire, c'est une chose qui s'applique aux idéologies, à deux idéologies, le communisme et le nazisme. L'islam, c'est l'islam, c'est quelque chose de différent. Ne lui appliquons pas des étiquettes qui ne lui conviennent pas. Là, c'est
mais
encore
qu'est-ce
une,
que nous devons
une preuve
faire,
d'ignorance.
Qu'est-ce que nous pouvons espérer de plus dans nos relations avec l'islam? Au moins les comprendre.
L'islam, parce que comprendre les musulmans qui sont ni meilleurs ni pires que nous, il n'y a pas de différence, ce sont des êtres humains. Je n'ai jamais pensé que les catholiques fussent plus vertueux que les musulmans. Au contraire, souvent, les gens qui vivent dans le pays trouvent que ce n'est pas vrai. Mais qu'on sache au moins ce que c'est que l'islam, et ce qui oblige que les chrétiens sachent ce qu'est leur propre religion, ce qu'ils ne savent plus, parce qu'on ne leur enseigne plus. On leur dit qu'il faut être gentil, qu'il faut être pas raciste, qu'il faut, enfin, toutes les choses, si vous voulez, de la morale de la télévision, de la morale générale, mais qui n'ont pas grand-chose à voir avec la vérité chrétienne, et qui les exposent à des formules aussi bêtes que les trois religions du livre. C'est idiot, n'est-ce pas? C'est faux, ça n'existe pas.
On ne peut pas mettre sur le même plan leur relation avec la Bible, les trois religions.
Pour la bonne raison que les Corans récusent la Bible. Pour eux, la Bible, c'est dans le Coran. Il n'y a pas d'autre livre que le Coran, d'une part, et d'autre part que ce livre est donné par Dieu directement. Alors que les Juifs, et surtout les chrétiens, considèrent que la Bible est un texte inspiré.
Mais est-ce qu'il peut y avoir un rapport positif entre les deux religions de la Bible?
Il peut y avoir un rapport entre les hommes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que quand on regarde l'histoire, le moment où les chrétiens et les musulmans se sont le mieux entendus, c'est quand ils se faisaient la guerre, au moment des croisades. Parce que là, il y avait des idéaux chevaleresques communs et rivalisaient de chevalerie.
Troisième question récurrente de notre série L'Essentiel. Élargissons les perspectives à votre regard donc, sur le monde aujourd'hui et notre société. Qu'est-ce qui, sur ce plan-là, Alain Besançon, vous paraît essentiel à dire? Il y a une part de jeu, bien sûr, dans la question. Si vous aviez une idée à faire ressortir,
écoutez, votre regard sur le monde. L'idée que je ressens, tout simplement, c'est qu'il y a quelques années, quand le monde était vraiment polarisé entre deux choses que je voyais bien, notre monde et le monde communiste, j'avais l'impression de comprendre les événements. Parce que le communisme, une fois qu'on en a les clés, on comprend très bien, c'est très simple. Moi, je n'ai jamais eu de problème avec la Russie. Mais non, ça, la Russie, c'est extrêmement simple, il faut avoir la clé. Les États-Unis, où j'ai vécu, autrement compliqué. Hein, c'est comment savoir comment marche le système américain, s'il n'y a pas de système, d'abord, comment ça marche, c'est très difficile. Le système soviétique, c'est très prévisible. Mais bon, mais c'est fini. Maintenant, nous sommes dans un monde beaucoup plus mobile. Et depuis cette révolution 64-ale, ou 8-ale, comme vous voudrez, qui se développe, nous sommes dans un monde fluide. Et puis avec des nouvelles choses. Hein, des nouvelles choses dont nous ne connaissons pas l'impact. Hein. C'est bien que...
Oui, ce qui est gênant pour un historien qui a l'habitude d'établir un fil conducteur à l'aide de...
Les historiens, ils essaient de comprendre le passé. Mais
mise en perspective.
Et le présent, dans la mesure où ils le mettent en perspective avec des choses du passé. Mais pour l'avenir, comme disait le président Chirac, eh bien, les prévisions sont toujours difficiles.
Alors, donc, votre idée est essentielle, hormis cette idée d'un monde fluide. Quoi. Nous sommes dans un monde fluide.
C'est un monde que je ne comprends pas très bien. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce que je vois autour de moi. C'est que les gens sont un peu... se demande et qu'on a l'impression qu'on attend quelque chose qui ne se développe pas. Par exemple, cette crise considérable. Alors là, justement, on pouvait attendre quelque chose comme la crise de 1929, puisque c'est la plus grave depuis 1929. On pouvait s'attendre à des événements politiques graves comme il y en a eu tout de suite. Voilà 2 ans qu'elle est enclenchée, cette crise, et on ne voit rien venir. Il va peut-être y avoir des choses, mais je trouve que le monde, notre monde, en tout cas occidental, est étrangement un monde calme. Hein, no news. Et c'est plutôt ça qui est frappant. Il n'y a rien dans les journaux. Et peut-être tant mieux, d'ailleurs.
Je voudrais revenir un instant sur ce que vous disiez, quand même d'étonnant sur la Russie, en disant que ça se lisait à livre ouvert. Mais votre code de lecture, c'est quoi ? Moi, en vous lisant, parce que c'est évidemment passionnant de vous lire sur tout ce que vous avez écrit sur la Russie, j'ai l'impression que le centre de votre code de lecture, c'est Dostoïevski. Pour comprendre la Russie, il faut comprendre Dostoïevski, c'est ça ?
Dostoïevski est un gros tôt. Non.
Cette idée que la politique n'est pas l'essentiel, que...
Non, ça c'est... Au contraire, pour Dostoïevski, la politique, c'était essentiel. Il croyait en la Russie.
Hein, c'était, mais c'était la Russie, c'était autre chose que de la politique, c'était une âme, c'était...
Oui, c'était la Russie, on ne peut pas la mesurer avec nous, il faut la comprendre, il faut l'aimer, etc. Bon, c'était un hyper-nationaliste russe. Pour qui tout ce qui était occidental était atroce, tout ce qui était de mal en Russie, ça venait de l'Occident, catholique, socialiste, protestant, athée, etc., moderne. Non, il est important de Dostoïevski, et puis c'est un très grand auteur, Et dans un de ses romans, les démons, il a compris avec une perspicacité prodigieuse, à partir d'une petite bande d'étudiants là, qui s'agitaient vers 1877, je crois la date des démons, 75, 76, il a compris ce qui allait arriver à la Russie. Et que Mestre, Joseph de Mestre, qui avait été ambassadeur en Russie, avait déjà pressenti en disant que la Russie périrait par des Pougatchev d'université. Pougatchev, ça avait été une révolte épouvantable au XVIIIe siècle. Il disait, mais ce qui est grave, c'est les Pougatchev d'université. Et effectivement, ce sont des très médiocres étudiants, en général, qui s'agitaient dans des petits complots infimes. Ils ont pris le pouvoir à la faveur d'un accident. Mais les accidents arrivent en histoire. Chances de Lénine ou les chances de Hitler étaient infimes. Mais ils sont arrivés au pouvoir et ils ont fait ce qu'ils ont fait.
Le portrait que vous faites de Dostoïevski, on pourrait presque le faire de Solzhenitsyn.
Solzhenitsyn,
tel que vous venez de le définir.
Oui, Solzhenitsyn a compris, effectivement, que le point stratégique était l'idéologie. Mais à la fin de sa vie, le pauvre, il s'est fait submerger par le nationalisme russe, qui est vraiment leur maladie. Et puis voilà, c'est embêtant, c'est triste. Il a approuvé la guerre en Géorgie, etc.
Quatrième question de notre série L'Essentiel. Quelle est pour vous, Alain Besançon, la plus grande hypocrisie de notre temps ?
Il y en a beaucoup. C'est justement le refus d'appeler les choses par leur nom, si vous voulez. Nous le voyons tous les jours dans les journaux. Alors là, très différent des journaux italiens ou espagnols. Quand il y a un crime, on donne les noms des criminels. En France, les jeunes, etc. Bon. La plus grande hypocrisie de ce genre, c'est cette dissymétrie qui est maintenant établie entre le nazisme, qui est le mal absolu, et le communisme, qui est un mal relatif, qui est plutôt... D'ailleurs, on ne dit pas le communisme, on dit le stalinisme, pour dire que... Voilà. Moi, j'ai un de mes livres qui était traduit en allemand, dont le titre, il y avait « Communismus ». Eh bien, ils l'ont changé, ils ont mis « Stalinismus », si vous voulez, parce qu'on veut garder une certaine honorabilité au communisme. Bon, le communisme a fait 100 millions de morts, le nazisme en a fait autant qu'il a pu, et de la façon la plus effrayante, mais vous avez une dissymétrie considérable dans la mémoire. Et... Les Allemands se sont repentis du nazisme Et personne ne se dit plus nazi. Alors que la Russie ne s'est pas repentie du communisme, et ça lui coûte cher, parce qu'elle n'arrive pas à en sortir du coup. Et ce monde de l'Est est encore rempli de gens qui ont été formés dans le communisme, qui ne sont plus communistes, mais qui sont moralement communistes.
Mais la mise à niveau des deux vous paraît également vraie concernant l'attitude à l'égard des Juifs. Vous avez écrit un livre qui a fait beaucoup de bruit là-dessus.
Ah ben, c'est-à-dire qu'on a le droit de comparer, justement, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le nazisme voulait vraiment tuer tous les Juifs, puisque c'était là qui était le centre du mal. Parce que dans les idéologies, il y a toujours quelque chose de mal qu'il faut détruire. Hein, il y a un centre du
facile,
mal.
C'est plus facile.
Ben, il y a un centre du mal. Alors pour les nazis, c'était les Juifs. Et on allait dépenser beaucoup d'argent, beaucoup de travail administratif pour aller chercher dans un grenier hollandais une petite fille, dans un couvent belge, je crois, ou hollandais, une religieuse juive, etc., etc. Bon, dans le système communisme, c'est le capitalisme qui est, ça c'est beaucoup plus vague. C'est bien que tout le monde est menacé, si vous voulez, parce que l'esprit du capitalisme peut toujours s'incarner en vous. Hein. Et on l'a vu, le communisme a détruit ses propres cadres. Ils étaient toujours soupçonnés. Bon, alors on a vécu dans le soupçon comme ça. Et donc, théoriquement, si le nazisme avait triomphé, après les Juifs, ça aurait été... C'était les chrétiens, parce que Hitler voulait les détruire après. Puis ça aurait été les Slaves. C'était les Slaves qu'il fallait détruire. Bon, ça allait très loin. Et finalement, on détruit tout. Eh bien, dans le communisme aussi, vous avez le cas de la Corée du Nord. Le seul pays qui est vraiment dans la logique communiste intégrale. Bon, ben écoutez, vous voyez ce que c'est. Hein. C'est un camp de concentration avec des cercles différents. Mais le pays entier est dans un camp de concentration.
Et la démarche d'un Che Guevara, c'est assez proche de ça aussi, non?
Oh ben, Che Guevara, c'est pas un type intéressant, à part qu'il était photogénique. Mais c'était une brute primaire. Hein,
oui,
c'est une brute primaire qui n'a aucun intérêt.
Mais comment expliquez-vous
qu'il est occidental?
Oui, c'est ça. Comment expliquez-vous qu'il conserve une telle valeur de mythe?
Ben,
alors qu'on sait tant de choses.
Ben, parce que, je sais pas, il a pris l'allure dans les pays d'Amérique latine, il a pris une allure christique, si vous voulez.
Christ noir, là.
Oui, mais enfin, ça fait rien. C'est la théologie de la libération. Alors qu'il n'était pas du tout comme ça, d'ailleurs, lui, c'était encore une fois, c'était une brite assez sadique, quand même. Il aimait voir fusiller, il fusillait pas mal.
Cinquième question récurrente de notre série L'Essentiel. Quel est, Alain Besançon, l'événement de ces dernières années ou la tendance apparue ces dernières années qui vous laisse le plus d'espoir? On change de registre.
Écoutez, moi je souffre parce que je suis un vieil homme et que dans ma génération, on était très patriotes parce qu'on était occupés par les Allemands, etc., etc., etc. Moi je souffre, si vous voulez, d'une espèce de chute de talent en France. Une chute de talent. Et je vois qu'il y a du talent en Angleterre, du talent en Italie, du talent aux États-Unis, beaucoup. Et en France, je vois ni dans la littérature, ni dans la peinture. Il y a des talents. Il y en a eu, mais par exemple, le niveau de français de la caricature, c'est rien. Mais comparez cette merveilleuse caricature américaine, où lisez l'économiste, The Economist, hein, vous voyez le travail des caricaturistes anglais. Vous voyez nos journaux. Bon, je ne vais pas le nommer, mais enfin, c'est lamentable de pensée, lamentable de style, lamentable de trait. Si je dois dire un peu de bien de Willem, mais qui est un Hollandais qui écrit dans Libération et qui a un sens, disons, des noirs et des blancs, qui était celui des caricaturistes de la Belle Époque. Il a du talent. Les autres, c'est effrayant, je trouve. Enfin, bon, c'est un petit détail, si vous voulez, mais ça m'obsède parce que, bon, je crois que quand même la France a eu une littérature de professeurs après la guerre. Je crois que le couple Sartre a été quand même un été noir sur le talent français. Alors, ce qui me frappe, c'est une désintoxication de la jeunesse. Et je vois dans la génération, déjà, de génération des gens qui ont 50, 60 ans maintenant, beaucoup plus jeunes que moi par conséquent, qui ont traversé l'époque des gourous, mais sans y laisser trop de plumes, l'époque des Sartre, des Lacan, des Althusser, des Bourdieu. Ils sont en fait, à mon avis, mais je me trompe peut-être, on verra, mais enfin, ils sont à mon avis des charlatans ou des imposteurs.
Vous n'avez pas cité Lévi-Strauss, hein ? Vous le mettez à part, lui.
Bon, c'est un savant, de toute façon. C'est un savant, mais ce qu'on a fait du structuralisme, c'est différent, parce que vous avez des épigones. Hein. Non, je ne suis pas compétent dans ce domaine, je n'ai pas de jugement, vraiment, mais c'est manifestement un grand scolaire, il est reconnu comme tel. Ce n'est pas le cas des autres gourous.
Oui, c'est ce que je voulais vous faire dire.
J'ai l'impression que la jeunesse française a appris à s'en méfier et que elle travaille sérieusement et qu'ils se remettent à l'érudition, à la lecture. Pour la philosophie, que je connais un peu, ben c'est Aristote, Platon, Pictète, Descartes, Hume, enfin Hobbes. Enfin, c'est ça qu'ils étudient. Et on est sorti de ce sous-marxisme qui a régné en France, qui continue de baigner d'ailleurs une bonne partie de l'enseignement français. L'enseignement de l'histoire est quand même du soft marxisme, souvent.
Dans les livres scolaires, en tous les cas.
Livres scolaires, oui.
Sixième question de notre série L'Essentiel. Quel a été, Alain Besançon, le plus grand échec de votre vie ?
D'abord, il faut dire que j'ai quand même eu de la chance dans ma vie. D'abord, c'est la chance géographique de naître à Paris, quand même, c'est pas mal. C'est un milieu où j'ai pu avoir de l'instruction, qui a veillé sur ma santé. C'est déjà de très grands privilèges, tout ça. J'aurais pu naître en Corée du Nord, en Mandchourie, au fin fond de la Russie. Bon. Alors l'échec, c'est de ne pas avoir tiré parti de ces privilèges qui m'étaient donnés, et en particulier de ce trou que j'ai eu entre 17, où je n'ai pas eu la chance d'avoir un bon professeur de philosophie.
Pourtant célèbre,
et ses études
pourtant célèbre.
Connu.
On ne va pas le nommer, mais...
Non, connu. Enfin, c'était sa dernière année, il s'en fichait. Ou puis peut-être nous étions très distraits, nous avions envie de nous amuser, il y a aussi ça. Mais ces mauvaises études, des études insuffisantes que j'ai faites, qui m'ont obligé de reprendre, quand je suis sorti à 22 ans, puisque à 22 ans, j'ai fait 2 ans de service militaire, après ça, il a fallu gagner ma vie. Heureusement, j'avais un talent, minuscule talent, mais qui était le talent de passer les examens sans rien savoir. C'est un talent mineur, mais dans un pays comme la France, c'est très utile. Ce qui m'a permis, alors que je ne savais pratiquement rien, de passer l'agrégation dans un bon... Mais à ce moment-là, j'ai senti qu'il fallait refaire toute mon éducation. On ne l'a fait jamais complètement. Je regrette beaucoup de ne pas savoir bien les langues anciennes, de ne pas avoir bien appris très sérieusement des langues modernes. Enfin, j'ai passé une bonne partie de ma vie à apprendre le russe, l'anglais, l'italien, l'espagnol, l'allemand. J'ai su, c'est une catastrophe de ne pas savoir.
Mais enfin, est-ce que la contrepartie de cela n'a pas été qu'à travers au moins une vingtaine de livres, vous ayez développé une pensée très personnelle, très originale, qui nous apporte beaucoup plus que si vous nous aviez ressassé un savoir universitaire acquis.
Oui, mais ils sont heureux, ceux-là. Et ils font des choses solides. Moi, j'admire les érudits. Parce qu'ils
peuvent mieux être Socrate mécontent qu'un porc bienheureux, non, disait quelqu'un.
Je ne sais pas, mais les vieux érudits, ils labourent leur champ jusqu'à leur dernier souffle. Ils font des choses
utiles.
Oui,
mais vous, on a l'impression que vous faites autre chose que labourer, vous creusez.
J'ai dû faire autre chose par faute de pouvoir être un érudit moi-même. Moi, j'ai appris des choses quand même. Puis là, en ce moment, j'écris encore.
On va revenir sur vos derniers écrits, mais il y a un nom que vous avez cité très rapidement au tout début de cette émission, et pourtant c'est quand même quelqu'un qui a marqué votre vie, c'est Raymond Aron. Alors je voudrais vous poser une question.
Raymond Aron était essentiel parce que j'ai eu la chance, encore une fois, d'avoir, dans mon domaine russe, d'avoir eu de bons maîtres américains. Parce qu'à ce moment-là, la France était ou nulle ou mensongère. Mais il y avait une école américaine qui s'est d'ailleurs un peu évaporée maintenant, mais avec des grands noms. Et j'ai eu la chance d'avoir pour maître à Columbia, à Berkeley, des gens qui m'ont appris quand même le métier. Mais en pensée générale, celui qui m'a montré ce que c'est qu'une vie intellectuelle bien conduite, comment on doit la mener, ça a été Raymond Aron, que j'ai rencontré en 68. En 68, j'avais quoi ? J'avais 36 ans. J'avais 36 ans et ça a été pour moi un homme, un exemple essentiellement. C'est pas qu'il m'a tellement appris de choses, puisqu'au fond, en politique, j'étais d'accord avec lui depuis longtemps, mais de façon sauvage. Mais enfin, en tenue intellectuelle, et en particulier sa tenue en mai 68, c'était assez exceptionnel. Et là, j'ai eu tout de suite le sentiment que j'avais affaire à un esprit noble et un homme noble.
Comment expliquez-vous cette situation un peu paradoxale ? Parce que c'est un homme très très complexe, Aron. Pendant la guerre, il est dans les FFL, mais en même temps, entre Pétain et De Gaulle, il ne condamne pas Pétain comme tous les autres l'ont fait de façon draconienne. Ensuite, c'est un homme de droite qui va s'engager contre la guerre au Vietnam, qui va s'engager pour l'indépendance de l'Algérie. C'est quand même un homme paradoxal.
C'est pas un homme de droite, Aron. Il est absolument étranger à la tradition maurassienne.
La droite ne se résume pas à Maurras.
Oui, mais enfin, elle a lourdement pesé sur la droite, y compris sur le gaullisme, n'est-ce pas ? Il faut quand même le reconnaître, toute objectivité. Aron n'était pas de cette famille-là. Il a commencé par être socialiste et puis il a fait, au fond, son enquête avant la guerre. Et il a vu que ça ne marchait pas. Et à partir de ce moment-là, c'est un homme qui est sorti de France. Et ça, vous remarquerez que ceux qui se sont conduits intelligemment pendant la guerre et après, ce sont des hommes qui avaient une expérience étrangère. Jean Monnet, une expérience anglaise-américaine. Aron, une expérience allemande-anglaise-américaine. Et c'est toujours ces gens-là qui, sortis de France, étaient quand même un peu libres par rapport ou franco-français, quoi.
Oui, avec une formidable créativité, puisque je ne sais pas si c'est en mai ou en juin 39, Aron qui a 30 ans. cette année-là.
Oui.
Dit si les Allemands n'envahissent pas l'Angleterre cet été, ils perdent la guerre. Il a 30 ans.
Oui, bah écoutez,
il écrit ça.
Oui, bah c'était vrai d'ailleurs parce c'était vrai. Mais je vois ça, mon père qui n'était pas un homme, c'était un grand médecin et qui s'est très bien conduit pendant la guerre. Mon père en décembre 41, il a fait un diagnostic
identique.
Bah il a fait le diagnostic que dès l'instant que les Allemands n'avaient pas renversé le régime soviétique et dès l'instant que l'Amérique était rentrée en guerre, il n'y avait plus aucune chance pour les Allemands. C'était en décembre 41. Le diagnostic pouvait être fait. Moi, j'admire l'appel du 18 juin de Gaulle parce que ce n'est pas du tout un cocorico, un cri de... C'est une bonne analyse stratégique. C'est une bonne analyse stratégique.
La même que celle de Churchill, d'ailleurs.
C'est la même que celle de Churchill. Les Allemands, en fait, ils ne peuvent pas gagner la guerre. Ils auraient pu la gagner si... Bon, enfin, on pouvait très bien faire cette analyse. Et il est effrayant que tant de militaires français et glorieux comme Pétain ne l'aient pas faite parce qu'il suffisait de regarder une carte.
Septième et dernière question de notre série L'Essentiel. Aujourd'hui, Alain Besançon, quelle est votre motivation essentielle dans la vie ?
Écoutez, j'ai eu de mes chances, c'est que je n'ai jamais cherché le succès. Je ne l'ai pas eu d'ailleurs, mais enfin, tant mieux.
Vous avez quand même obtenu la considération intellectuelle, culturelle.
Mais c'est largement suffisant. Et bien voilà.
Non seulement en France, mais dans tout l'univers.
Oui.
Partout
bon,
où on pense d'ailleurs.
Bon, très bien, mais c'est ça, si vous voulez, c'est d'être reconnu comme raisonnablement intelligent par des gens que je considère comme intelligents, hein, c'est-à-dire essentiellement mes amis. Voilà, et mes amis sont ceux qui me considèrent comme intelligents. Et puis, si je peux résoudre des problèmes. Le communisme était pour moi un problème. La situation de l'Église, l'islam, tout ça, c'était des problèmes. La situation des beaux-arts, c'était un problème. J'ai donné une solution, je ne sais pas si elle est certainement pas définitive, mais enfin, j'ai cru avoir donné des solutions au problème. J'étais très content de l'avoir trouvé, cette solution. Encore un coup, il faut regarder les choses avec un peu de recul. Bon, on verra. On mettra sur ma tombe, pouvait mieux faire.
Vous n'êtes pas le premier à l'avoir fait. C'est une preuve d'humour, en tous les cas. Oui, vous nous parliez du communisme, vous parliez de l'Église à l'instant. Est-ce que toutes ces recherches que vous avez menées sur les totalitarismes et sur la religion ont diminué dans votre esprit la part de mystère qu'implique le constat du mal ?
Ah, certainement pas. On approfondit le mal, on contemple cet abîme béant, mais on ne résout pas le problème.
Non, pas le résoudre, mais est-ce que vous y comprenez un peu plus que...
Écoutez, en tout cas, j'ai eu l'œil...
Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire là-dessus
Ayant eu affaire justement à un mal absolu, un mal absolu communisme, à l'égal du nazisme, encore une fois, et quand on le scrute, et c'est là, c'est par ce chemin qu'on arrive aux questions métaphysiques et même religieuses, si vous voulez, qui d'ailleurs contiennent aussi une part de mystère. Après tout, la religion chrétienne repose également sur...
Théoriquement, il y avait trois grands mystères.
Bah, ils sont toujours des mystères.
Oui. Et qu'est-ce que vous aimeriez nous dire là-dessus, sur le mal, à travers toute cette expérience d'historien, à la fois donc,
comme l'a dit Solzhenitsyn une fois, je crois bien inspiré cette fois, il a dit il n'a pas commencé avec nous, il ne finira pas avec nous.
Ainsi s'achève cet Essentiel avec Alain Besançon. Nous n'avons pas eu le temps de parler de quelque chose d'étonnant dans votre carrière, le roman que vous avez écrit en 2007,
Émile et les menteurs. C'était un grand plaisir. Parce que
très drôle.
C'était un but aussi, m'exprimer un peu moi-même. Et alors j'ai écrit comme ça des mémoires à 50 ans, c'était un peu tôt, mais enfin... Ça s'appelle Une génération, mais enfin dans laquelle... Et puis ce roman que j'ai écrit en deux mois, avec un immense plaisir.
C'est un polar, on peut le dire.
Ça a l'air d'un polar, mais ce n'est pas
drôle,
tout à fait. C'est un roman picaresque.
Dans lequel
je mets des expériences de vie, l'expérience de la Russie, l'expérience de la diplomatie française, l'expérience des affaires, parce que j'ai été PDG pour des raisons bizarres pendant 2 ans. Qu'est-ce que j'ai mis comme expérience ? L'expérience de l'université américaine, l'expérience, etc.
La seule question que je vous poserai, je ne vous demanderai pas si c'est codé, vous allez me dire que non, mais bien que ça le soit. Mais simplement, à vous lire, on a l'impression que plus on monte dans la hiérarchie, dans quelque domaine que ce soit, plus on a affaire au mensonge. C'est vrai ou c'est faux, ça ?
Oh,
qu'on ment beaucoup.
Ce n'est ni vrai ni faux, ce n'est pas exact. Il y a des situations dans lesquelles on trouve de l'intelligence au sommet. Ça arrive, c'est pas toujours. Je viens de lire le journal de Roland de Margerie. Bon, c'est un livre comme il y en a beaucoup. Ça porte essentiellement sur l'année 39 et 40. Eh bien, franchement, c'est effarant, la pauvre France de 39 et 40. Là, ça correspond à peu près à ce que vous dites. Là, il y avait Gamelin à la tête, et Deladier, Paul Reynaud, etc. C'est pas le sommet.
Mais il suffisait de voir l'âge de tous ces messieurs.
C'était pas le sommet. Et bon, mais ça arrive, c'était des circonstances malheureuses, mais il y a des circonstances plus brillantes. Il y a eu Churchill en Angleterre, un peu seul, de Gaulle en France, enfin, quels que soient leurs défauts. C'est quand même des gens des esprits supérieurs.
Churchill, pour vous, est l'un des, sinon le plus grand homme d'histoire du XXe siècle, plus grand homme politique ?
Il a eu son heure de gloire, assez courte. Assez courte. Churchill était un homme fichu en 1939. On se souvenait des bêtises qu'il avait fait pendant la guerre de 14, puis sa position, etc. Non, il a eu son heure de gloire et qui a pallié assez vite, parce qu'après ça, à partir de 1943, quand il a vendu un peu bêtement la Pologne à Staline, qui n'est vraiment pas bien, alors que la Pologne résistait beaucoup plus fort que la France à ce moment-là. C'est assez horrible. Pour pas parler de Churchill aux Polonais. Mais enfin bon, Churchill a eu son ordre de gloire, il l'a mérité.
Alors, je rappelle le titre de ce roman, là, dont nous n'avons pas pu parler malheureusement, donc Émile Élémenteur, il est publié aux éditions de Fallois. Oui. Alain Besançon, merci, et merci à tous et à toutes d'être avec nous.